Yann Lechel, bonjour.
Bonjour Didier Testo.
Vous êtes le directeur général de Scaleway. On va parler avec vous d'un événement dans le monde du numérique, puisque vous avez décidé de quitter GaiaX, qui était l'association européenne censée, je dirais, nous amener à un cloud européen. J'imagine que cette décision n'a pas été prise cette semaine, que ça fait un moment que vous y réfléchissiez. Qu'est-ce qui, pour vous, a été déterminant dans ce choix stratégique de Scaleway?
Alors, en réalité, cette décision a été soudaine, même si, quelque part, cela fait des mois que nous posons la question de l'évolution de GaiaX. Donc, c'est tout simplement en participant à des questions autour d'un sujet d'actualité sur un plateau TV, en fait, où la question était posée de que pouvons-nous attendre du summit GaiaX qui a lieu ces deux derniers jours. Et au fond de moi-même, je me suis dit rien du tout. C'est-à-dire que je ne m'attends pas à quoi que ce soit de GaiaX, puisque la vélocité de ce que propose GaiaX est très faible, là où le marché évolue à une vitesse radicale. Et donc, dans ce dispositif, finalement, Scaleway ne s'y retrouve plus. Alors que nous sommes plutôt, et nous étions très impliqués en tant que membres cofondateurs. Donc, nous sommes arrivés à cette conclusion, finalement, assez naturellement, car nous pensons que justement, et vous l'évoquiez dans la question, GaiaX pouvait représenter un futur cloud souverain européen, mais si l'on décrypte finement la genèse et l'évolution, en fait, il n'était jamais question d'un cloud européen, il était question d'un méta-cloud, ou en tout cas d'une fédération des acteurs du cloud, notamment les acteurs américains. Donc l'idée a toujours été de travailler avec les acteurs américains qui sont dominants. Et finalement, on se retrouve dans un imbroglio et une complication organisationnelle qui fait que GaiaX n'avance pas, voire même continue de se complexifier au niveau des comités techniques. Donc voilà, finalement, le constat est très simple pour nous. Ça ne nous sert plus.
Il y avait peut-être un espoir initial, certes, de travailler avec les Microsoft et tous les autres, y compris les acteurs chinois, parce qu'on oublie parfois de le dire, il y a des Alibaba, des Huawei qui sont dans ce GaiaX, mais avec une version européenne, c'est-à-dire en disant, voilà, nous, Européens, ce qu'on souhaite comme cloud souverain, c'est ça, et à vous, Américains et Chinois, de vous adapter à ce format-là. Et ce n'est pas ce qu'on trouve aujourd'hui.
Ça reste la proposition, mais il est nécessaire que tout le monde joue le jeu. Or, ces acteurs extraterritoriaux sont dans GaiaX, non pas pour construire quelque chose avec nous, mais plutôt en défensif et pour ne pas être exclus de quoi que ce soit. Donc, en réalité, leur intérêt est plutôt de tout faire pour que ça n'avance pas ou de tout faire pour que cela réponde essentiellement à leurs besoins et pas aux besoins des acteurs entrants, des acteurs de plus petite taille, comme les acteurs du cloud français, notamment OVH, Scaleway, Outscale. Donc évidemment, je ne réagis que pour Scaleway, et loin de moi l'idée d'influencer les autres acteurs. GaiaX suit son chemin, Scaleway s'en détache. Pourquoi ? Parce que notre vélocité est très bonne en ce moment, on a des produits très pointus qui justement font mentir ce qui est dit généralement, c'est-à-dire que les Américains sont en avance, c'est faux. On ne peut pas le dire de manière générale comme ça, c'est trop simpliste comme vue. Nous sommes à la pointe sur certains sujets, pas sur tout, évidemment. Et pour autant, notre vélocité remporte des marchés, nous avons des clients extrêmement satisfaits qui nous font des retours très positifs. Notre croissance est bien au-dessus de celle du marché de manière générale. Nous avons besoin de nous refocaliser sur ce qui nous permet d'avancer vite, parce que finalement, si on se pose la question fondamentale, la souveraineté européenne, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, le constat, c'est que nous n'en avons pas, c'est-à-dire que la souveraineté européenne n'existe pas. Et ce qu'on attend, c'est qu'il y ait des acteurs qui puissent répondre aux enjeux et que ce soit des acteurs locaux. C'est évident, parce que quand bien même GaiaX pourrait créer cette couche de conformité, de réversibilité, il faut bien penser à la notion de souveraineté elle-même. Encore une fois, GaiaX n'a jamais tenté de créer cette notion de cloud souverain, puisqu'elle ne crée pas une technologie. Elle essaye de forcer certains acteurs dans, dans un cadre. Donc, c'est très différent. Voilà. Donc, Scaleway doit se focaliser sur sa croissance.
Alors, il y a eu. Alors, c'est vrai que pour les non-spécialistes, c'est compliqué de comprendre ce qu'il y a derrière un cloud souverain, un cloud de confiance, un mot inventé par les énarques qui nous gouvernent. Mais vous qui êtes sur le terrain, il n'y a pas longtemps, vous avez inauguré un data center. Hein, vous avez montré ce que c'était ce qu'un data center. Quand on parle de cloud souverain, de cloud de confiance, est-ce que vous, le professionnel, vous y comprenez quelque chose ?
Très certainement, et je suis tout à fait en opposition avec le choix du vocabulaire, et presque que ça finalement, parce qu'en réalité, truffé de bonnes intentions, hein, les administrations ont travaillé leurs dossiers les unes les autres, ont cherché à répondre à la problématique légale, juridique, du Cloud Act. C'est-à-dire que le Cloud Act, aux États-Unis, permet aux États-Unis d'avoir une portée extraterritoriale. Donc, ils sont capables, à travers leur législation, d'avoir des actions juridiques qui enfreignent quelque part nos libertés européennes. Donc, la réponse juridique a essayé d'imaginer un cloud de confiance qui annulait, ou en tout cas garantissait qu'il n'y avait pas d'impact au niveau des lois extraterritoriales américaines. En réalité, et cette réflexion m'est venue aujourd'hui, parce que tout le monde s'intéresse à la raison pour laquelle nous quittons GaiaX, c'est que le gouvernement aurait dû plutôt s'attarder à créer une définition pour le cloud dans lequel on ne peut pas avoir confiance. C'était ça qu'il fallait faire, plutôt que de dire ce qui est le cloud confiance. Et Scaleway est un acteur français, dont l'actionnariat est français, dont la propriété est localisée en France, en particulier autour de Paris, mais aussi à Amsterdam et à Varsovie. Donc, Scaleway est un acteur éminemment souverain en France et souverain aussi par son logiciel, puisque nous développons notre logiciel. Donc, nous avons une maîtrise totale. Et aux États-Unis, par exemple, est-ce que l'on pose la question de la souveraineté de Microsoft, de Google ou d'Amazon, d'AWS, en tant qu'acteurs souverains aux États-Unis ? Non, ces acteurs sont évidemment souverains aux États-Unis. Donc, pourquoi est-ce que Scaleway devrait se battre pour rentrer dans la définition d'un acteur de confiance alors que nous sommes nous-mêmes souverains par définition ? Voilà, donc c'est cette articulation, et vous avez raison de mentionner le sujet du cloud de confiance en conjonction avec GaiaX, parce que cette question fondamentale de souveraineté n'est pas développée correctement ni par le cloud de confiance, ni par GaiaX.
Alors, on a vu du côté des politiques et notamment du premier d'entre eux, le président de la République, au début dire bah, finalement, on n'est pas trop, on a pris du retard sur le cloud, après dire bah, on a peut-être ce cloud de confiance, dire non, finalement, on peut faire quelque chose. La question se pose également aux professionnels que vous êtes, celui qui est sur le marché. Est-ce qu'aujourd'hui, on se dit, on a effectivement encore la capacité de créer ce cloud européen malgré les sujets qu'on vient d'évoquer ensemble, c'est-à-dire des sorties, peut-être que d'autres vous suivront, peut-être qu'il y aura d'autres initiatives qui pourront, je dirais, progresser en Europe, mais est-ce qu'on a l'opportunité vraiment, et c'est pour notre génération et celle d'après et celle encore d'après, est-ce qu'on a cette capacité-là ?
Bien sûr, et la réalité, c'est que le cloud a beaucoup évolué. Aujourd'hui, le cloud public, hein, qui est une itération du cloud privé, qui est même une itération de l'infrastructure on-premises, c'est-à-dire dans les locaux même de l'entreprise, chaque vague évolue. Le cloud public est arrivé à un niveau de maturité qui fait que l'essentiel des prestations consommées sont des commodités. Et d'ailleurs, on parle bien de commodités, c'est-à-dire que le cloud aujourd'hui, c'est l'ordinateur de quelqu'un d'autre. C'est un serveur avec des puces qui sont certes, encore une fois américaine, mais des puces mémoire qui sont sud-coréennes et des châssis assemblés en Chine. Donc, la machine elle-même est une commodité. D'ailleurs, le marché est tendu en ce moment. Une fois qu'on a acheté la machine, on la possède, on la détient. Donc, un cloud peut être déployé par des acteurs dans tous les pays une fois qu'ils achètent du matériel. La partie complexe concerne le logiciel, c'est-à-dire celui qui permet de consommer des ressources de manière variable. Et c'est ça qui fait que l'on détient la souveraineté sur la partie logicielle.
Je connais beaucoup d'entreprises, j'en interroge beaucoup ici même. Le CAC 40, pour faire simple, pour les plus grandes, ils sont tous chez la plupart, les Microsoft, les Google, les Amazon. Ils ont pris les DSI de ces groupes, ont fait ces choix-là. Du côté des PME, il y en a aussi pas mal, mais il y a encore de l'espoir, effectivement, de ce côté-là, que des PME puissent décider ou en tout cas aller vers ce cloud souverain, ce cloud européen. Si je me mets à la place d'un patron de PME hein, qui nous écoute, un patron d'ETI, il peut se dire oui, mais bon, c'est bien sympa, mais c'est compliqué, faut que je change tout, ça va me coûter. Quelle est la compétitivité et quel est le risque pour lui?
C'est une excellente question et loin de moi l'idée de dire qu'il ne faut pas travailler avec les Américains. Donc, les Américains proposent évidemment du cloud de qualité, avec beaucoup de produits, etc. On parlait du cloud de confiance et de la doctrine hein, du gouvernement. La doctrine est une injonction qui consiste à dire utiliser le cloud public, c'est-à-dire le cloud géré par des entreprises privées. Hein, parce que les termes sont un peu confus. Mais l'injonction est de dire, pour offrir plus de souplesse, plus de services aux concitoyens, l'administration doit déployer ses services dans du cloud. Ok, très bien. Eh bien, figurez-vous que cette adoption du cloud public se fait tout doucement, très graduellement. Et donc, la première chose à faire, par exemple, c'est de comprendre comment utiliser les machines virtuelles. Bon, c'est un sujet qui n'est pas un sujet. Tous les acteurs du cloud, qu'ils soient souverains, non souverains, français, étrangers, savent faire des machines virtuelles. Donc, ce passage au cloud ne concerne qu'une fraction des produits. Il n'y a aucun risque aujourd'hui à choisir un acteur du cloud français pour déployer une infrastructure basique dans du cloud, et donc en France, chez un Français. On peut le faire évidemment chez les Américains. Si on doit déployer une infrastructure extrêmement complexe, extrêmement planétaire, par exemple, imaginez que vous ayez comme cahier des charges de développer Netflix du jour au lendemain. Probablement qu'AWS est le bon fournisseur. Mais pour la plupart des projets, un site web qui a besoin d'une certaine élasticité, mais de manière raisonnable, fonctionnera parfaitement dans un acteur régional. Voilà, donc le gap est très faible pour la plupart des projets, et je parle souvent de l'effet Pareto, c'est-à-dire que 80% des cas d'usage peuvent être satisfaits de 20% des produits. Donc même si l'on oppose la puissance de feu des acteurs dominants de celle des acteurs locaux, en réalité ce n'est qu'une vue de l'esprit. Certes, ils ont ces capacités, certes, ils ont ce catalogue de produits extrêmement puissant et développé. Ok, cette avance-là est avérée. En revanche, par rapport aux besoins, l'avance est nulle. Elle n'est pas significative parce que nous avons déjà ces prestations. Encore une fois, ce sont des commodités. Un point d'exemple, hein, Scaleway est le premier acteur européen à avoir une région de data center pleine en France. Il y a AWS et Azure qui ont une région complète en France. Scaleway est le seul acteur non américain à avoir une région pleine en France, en l'occurrence Paris. Et une région pleine, c'est 3 data centers maillés avec une prestation redondée autour des 3 data centers.
Alors, ce qui s'est passé pour vous et cette décision que vous avez prise, effectivement, par rapport à Gaia-X, de quitter Gaia-X, on le voit aussi sur l'écosystème, ce qu'on appelle l'écosystème du cloud français. On peut parler d'OVH, on peut parler d'Outscale, etc. Ça m'est même arrivé de vous proposer de prendre une bière ou un café avec Octave Klaba. Tout l'écosystème qui est autour hein, de vous aussi, tous ces écosystèmes, on a l'impression, et on ne sait pas pourquoi, ils n'arrivent pas à agir en meute. C'est-à-dire que quand on voit l'impact de ces GAFA, quand on voit ces moyens, ces lobbying, il y a eu des articles à ce sujet assez édifiants hein, sur les moyens qu'ils peuvent mettre pour aller à la Commission européenne, etc. Pas être naïf, mais comment c'est nos Gaulois, ceux qui savent faire un Microsoft 365, qui a le logiciel libre, le cloud, comment on arrive à faire, à fédérer et à mettre tout le monde ensemble? Comment ça va? Est-ce que c'est possible ou est-ce que, parce que là on est divisé, nous sommes divisés aujourd'hui?
Alors, divisé non, fragmenté oui, et la fragmentation de beaucoup d'acteurs nécessite beaucoup de coordination. Je ne pense pas que les Américains se coordonnent ou se coordonnaient lorsqu'ils étaient de petite taille pour remporter des marchés. La chose qui se passe, c'est que finalement, nous sommes tous peut-être en dessous d'un certain seuil critique qui fait que les décideurs, et notamment les grands décideurs, auront tendance à choisir la solution qui les protège. C'est-à-dire, si on prend le vieil adage, hein, personne n'a jamais perdu son emploi pour avoir choisi IBM. De la même manière, on choisira un acteur dominant pour finalement s'assurer une certaine garantie politique d'un prestataire qui est reconnu, qui est déjà référencé au niveau des achats, etc., etc. Donc, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que les choses changent dans l'après-Covid, dans l'après, et nous y sommes encore tant dans le Covid que dans la guerre commerciale initiée par Trump au niveau des relations internationales et géopolitiques. Donc, les États-Unis contre la Chine, finalement, l'Europe se retrouve assez démunie, n'ayant pas la capacité de créer ses propres masques lorsque ça devient critique, et de la même manière, n'ayant pas la capacité de protéger ses données. Donc, ça, c'est le sujet de la non-souveraineté, finalement. Donc, il y a une prise de conscience. Les consommateurs, les citoyens et les entreprises commence à se poser les bonnes questions. Et de la même manière, les acteurs aujourd'hui du cloud sont en train de travailler ensemble. Je travaille avec mes collègues d'autres entreprises du cloud, dont des concurrents, justement pour réfléchir à ce front que l'on peut proposer sur des idées fortes, qui soient des idées philosophiques porteuses de nos valeurs européennes, ou alors des idées tactique, justement, pour gagner du terrain, pour gagner des contrats. Et ça, c'est tout à fait pertinent. C'est peut-être nouveau, mais je pense qu'il faut des événements comme ces sujets où, finalement, les politiques sont obligées d'avancer, avancent, se prennent les pieds dans le tapis, dans la manière dont les choses sont faites ou dans la séquence, mais les intentions sont bonnes. Et j'aime à dire aussi que ce gouvernement se préoccupe du sujet du cloud et fait bouger les lignes. Alors, encore une fois, ils se prennent les pieds dans le tapis, mais ils sont très proactifs. Et ça doit être salué.
Alors, le mot de la fin sur... aujourd'hui, vous disiez qu'on est peut-être autour, dans une interview, 30% à peu près, les Américains sont autour de 30% du cloud, les Européens à 2%. Est-ce que c'est possible de renverser effectivement ce curseur et pour que, quelque part, on ait cette souveraineté européenne?
Bien sûr, c'est tout à fait possible. Alors évidemment, le régulateur a un rôle très important à jouer. Il ne faut pas oublier que c'est l'Europe qui a forcé Microsoft à séparer ou faire du unbundling de Internet Explorer avec Windows. Ça, c'était il y a longtemps, il y a plus de 15 ans de mémoire. Donc la Commission européenne a un certain pouvoir, mais les Américains eux-mêmes ne sont pas en reste. Ils ont besoin de s'assurer que des monopoles ou des oligopoles ne se sédimentent pas, puisque c'est le pire pour l'innovation, c'est le pire pour la compétitivité. Donc voilà, tant l'Europe que les États-Unis travaillent ce dossier, ce qui peut créer des opportunités nouvelles. Le cloud de confiance, théoriquement, devrait créer des opportunités pour le cloud français et par extension le cloud européen. Bon, il y a quelques problèmes. Il y a quelques problèmes dans la séquence et dans la manière dont certains acteurs sont mis en avant et pas d'autres. Le plan de financement, justement, de 1,8 milliard, lui, est étalé sur 4 ans et donc aura des effets positifs peut-être d'ici quelques années. Donc, cette séquence, finalement, où le cloud de confiance sous forme de licence de cloud américain et des financements retardés ou en tout cas lissés sur le temps, je pense que la séquence est à l'envers, mais bon.
Oui, on rappellera au ministre effectivement du numérique que les acteurs que vous êtes et les autres qui effectivement sont dans ce domaine-là attendent toujours des commandes. Donc, si c'est bien en signer.
La commande publique, c'est le nerf de la guerre en réalité.
C'est la base. Aux États-Unis, ils se gênent pas pour faire de la commande publique. Merci beaucoup, Yann Lechel, d'avoir été avec nous, de nous avoir expliqué effectivement ce qui se passait. Ça intéressera beaucoup d'entreprises effectivement tricolores de savoir ce qui se passe dans ce domaine puisque nos données sont concernées. Leurs données sont concernées, donc c'est fondamental. Merci beaucoup à vous.
Merci à vous.